Rodolphe Bringer, l'impraticable oisive. S'il nous est permis de remémorer nos souvenirs les plus anciens, et cette petite histoire qui ne nous rajeunit pas, il le plaça dans un jardin magnifique où il n'avait qu'à regarder se lever et se coucher le soleil, s'épanouir les fleurs et se mûrir de beaux fruits qui suffisaient à sa nourriture. Il lui avait donné des yeux pour admirer les beautés de la création, des oreilles pour se réjouir du chant des oiseaux et du murmure des sources, des narines pour se délecter du parfum des fleurs, des jambes pour s'asseoir sur des tertres gazonnés et des bras pour les croiser magnifiquement sur la poitrine. L'homme était créé pour ne rien faire. Et ce ne fut qu'après sa faute que Dieu lui cria dans sa colère « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front !» Et l'homme se mit à travailler. Doit-on s'en plaindre ? Après avoir mûrement réfléchi sur l'aventure, je n'hésite pas à proclamer qu'il faut s'en réjouir au contraire. Car que fut-il advenu, je vous le demande, si depuis la si lointaine création, l'homme fut demeuré oisif ? Je ne voudrais pas m'avancer beaucoup en pareille matière, mais il me semble qu'au bout de quelques années, de lui-même, l'homme aurait fini par inventer le travail. Car voyez-vous, il faut bien le dire, pour rendre cette borne vie supportable, en somme, on n'a encore rien trouvé de mieux. Oui, le travail est absolument nécessaire à l'homme, ce qui n'empêche pas d'ailleurs l'homme qui est enclin à l'erreur de chercher parfois à ne rien faire. Il est vrai qu'il n'y peut réussir. Depuis des milliers et des milliers d'années que l'homme travaille, l'habitude en est tellement prise qu'il lui est devenu impossible de s'en défaire. L'homme qui a travaillé toute sa vie ne sait plus se reposer. Il se dit, gros malin, « Je travaille, mais c'est pour avoir le droit un jour au déclin de ma vie de ne plus rien faire. » Et pendant 25 ou 30 ans, il aspire après sa retraite et le jour où il croit pouvoir profiter de cette bienheureuse retraite qui lui apporte le droit de laisser enfin reposer ses bras fatigués, il s'aperçoit qu'il lui est excessivement pénible de faire le geste natif de se les croiser sur sa poitrine. Monsieur Cornemuse, qui était notaire à Puget-Aignier, comme vous le savez tous, se réjouit de la naissance de son fils Gustave à la pensée qu'il pourrait, dans 25 ans, lui céder son rond de cuir notarial. Mais l'enfant ayant grandi, manifesta la ferme intention d'être photographe, et ce furent des scènes terribles où l'un criait « Tu seras notaire !» tandis que l'autre hurlait « Je serai photographe !» Bien entendu, comme c'était M. Cornemuse qui tenait les cordons de la bourse, ce fut Gustave qui dut céder et, tout parfumé de collodion, fut contraint de s'asseoir sur le rond de cuir notarial que venait d'abandonner son père. Enfin, M. Cornemuse allait pouvoir se débarbouiller de sa procédure et regarder paisiblement pousser ses laitues dans la petite propriété qu'il possédait aux portes de la ville. Mais la laitue pousse bien lentement, et M. Cornemuse se lassa bientôt de cette quiète joie. Il pensa à temps qu'il y avait à l'étude une affaire castagnaire dont Gustave Novice ne saurait jamais se débrouiller, et estima qu'il serait sage de venir l'y aider. Mais l'affaire castagnière appelait d'autres affaires castagnières, et depuis lors, bien qu'elle ait renvoyé son clerc devenu inutile, Gustave peut faire tout à loisir de la photographie, tandis que M. Cornemuse, heureux, établit des contrats, rédige des actes de vente et coopère à des sous-seins privés, et il n'y a rien de changé à Puget-Aignier. Il n'y a qu'un photographe de plus et un clerc de notaire de moins. Et cette tragique historiette vous prouve une fois de plus qu'il est bien difficile de ne rien faire et que l'oisiveté est bien véritablement impraticable. Y a-t-il des gens qui ne font rien? D'ailleurs, nous avons le travail tellement dans le sang que même ceux qui ne font rien sont des gens terriblement laborieux. Dites-moi, s'il vous plaît, si la journée de labeur d'un terrassier exige plus d'efforts que celle d'un homme soi-disant inoccupé. Prenez par exemple la vie d'un de ces heureux oisifs de Paris à qui quelques 100 000 livres de rente procurent la joie de ne rien faire. Voici notre ami le vicomte Guy Gontran Gaston des Baluchettes, à qui son père a laissé quelques millions, honorablement gagnés dans l'industrie alimentaire, sous le nom de Dupont, et qui, fort de se douer, s'est dit « Oh, je n'ai pas besoin de choisir une carrière, je vais laisser ce soin à ceux qui n'en ont pas le sou. Moi, je vais me la couler douce. » Terrible programme que celui de se la couler douce. Levé à 11 heures après s'être couché à 3, travail compliqué de la toilette, hydrothérapie, massage, manucure, pédicure, à peine le temps de déjeuner, car il faut être au golf ou au tennis à 2 heures, où il va user plus de calories en quelques minutes qu'un porteur oral n'en dépense dans une journée. Deuxième toilette, visites ennuyeuses, thé, exposition, conférences, cercle, bridge. Troisième toilette, dîner anti-stomachique, théâtre, soirée, bal, souper au menu effroyable alors que l'on n'a pas faim. Oh, je vous le demande, mais quel est le forgeron solide qui résisterait à une pareille existence? Ah, qu'il est donc difficile d'échapper à la loi du travail. Pourtant, mon oncle Gédéon se vantait de n'avoir jamais rien fait de sa vie. Il y a même des personnes dignes de foi pour assurer qu'il n'était bon à rien. Tout jeune, il demeurait des heures entières à bâiller aux corneilles, à regarder les mouches voler, assis bien tranquillement sur une chaise, si tranquille que ses parents étaient obligés de le pincer pour voir s'il n'était pas mort. Au lycée, ce fut le cancre parfait, et si de temps en temps on le faisait passer dans une classe supérieure, c'était uniquement parce qu'il grandissait et que les bancs devenaient trop petits pour lui. Son pauvre père mourut de désespoir d'avoir donné le jour à un être aussi inutile, un garçon qui ne put même pas faire un employé du ministère, car mon oncle Gédéon estimait trop pénible le rôle de l'employé qui ne veut pas aller à son bureau et se sentait incapable de jouer les monsieur Badin. Et remarquez que mon oncle Gédéon n'était pas riche. Sa pauvre mère, en mourant, ne lui avait laissé que 1800 francs de rente, c'est-à-dire de quoi de ne pas mourir de faim. Mais il préférait se priver plutôt que d'accroître par un travail quelconque ce maigre douaire. Et il assurait « Oh, si j'étais plus riche, serais-je plus heureux, et pourrais-je mieux jouir de la vie ?» Ô sage qui sait se contenter de peu, l'or n'est pas nécessaire. Il est inutile par conséquent de peiner pour s'en procurer. Je ne fais rien, et je suis heureux d'être celui qui n'a jamais rien fait de sa vie. » Ainsi parlait mon oncle Gédéon, et je l'admirais naïvement, ne pouvant prévoir son horrible fin. Car un jour, l'oncle Gédéon tomba malade, et il s'en vint consulter un médecin. Le morticole l'examina, l'ausculta, réfléchit, puis prononça gravement cet arrêt. « Monsieur, oh, votre cas est plus grave que vous ne le pensez. Vous faites de la tuberculose. Moi, je fais quelque chose? Oh, il n'y a pas à douter une minute, répliqua ce thérapeute, sans se douter qui jetait le désespoir dans l'âme de mon oncle Gédéon. Car ce n'était pas d'être si gravement atteint qui torturait ainsi le pauvre homme. C'était de mentir à toute une vie, à toute une existence, à tout un curriculum vitae, à tout un programme. Lui qui se vantait de n'avoir jamais rien fait de sa vie, voici qu'il faisait de la tuberculose sans s'en douter, comme M. Jourdain faisait de la prose. Le coup était trop cruel, il n'y put résister, et dès le soir même, s'estimant déshonoré, mon oncle Gédéon piqua une tête dans la Seine du haut du pont des Arts. Conclusion. La sagesse des nations a dit « L'oisiveté est la mère de tous les vices ». Eh bien, sauf le respect que je dois à cette vénérable dame, qu'il me soit permis de lui rire au nez. L'oisiveté est la mère de rien du tout. Car l'oisiveté n'existe pas. L'oisiveté ne peut pas exister, du moins chez l'homme. C'est son orgueil de travailler, c'est ce qui le différencie du reste de la création, c'est ce qui fait qu'il en est le roi. Parfaitement, il n'y a que lui qui travaille. Les lys ne filent ni ne tissent, comme l'a si bien dit l'Ecclésiaste qui s'y connaissait. Les animaux sont paresseux comme des loirs ou des couleuvres. Les végétaux végètent dans une fainéantise dont les coquelicots et les pivoines rougissent affreusement. Et quant aux minéraux, il est inutile d'insister, je pense, sur leur ignorance profonde autant que naturelle de l'effort comme de l'énergie. L'homme seul est laborieux. Travaillons donc, comme mes frères, puisqu'il nous est matériellement impossible de demeurer oisifs. Rodolphe Bringer.